Alors voilà, le sujet, l'espérance au quotidien. Donc j'ai fait beaucoup de textes et j'ai retenu celui-là. J'ai beaucoup de difficultés à mettre au clair les pensées. Donc voilà, j'espère que j'ai retenu le bon. Première. Alors.
Qu'est-ce qu'il a dit ? L'espérance au quotidien.
L'espérance au quotidien.
D'accord.
Alors, j'ai pensé beaucoup en commençant ce texte à l'espérance du Père. Parce que souvent, quand on parle de spiritualité avec des hindouistes ou bouddhistes, dès qu'on parle du Père, je vois qu'ils font marche arrière. Enfin, pas tout le monde, mais moi, ça m'est souvent arrivé qu'ils freinaient quand on parlait du Père, Dieu le Père. Donc là, j'ai réfléchi un peu à l'espérance du Père. Le quotidien, c'est un peu comme le temps qui s'écoule. Saint Augustin dit, le temps, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait le définir. Quelle est la définition du quotidien? Puisque c'est tous les jours, ça doit être facile à définir. Eh bien non, c'est pas facile. Par rapport à l'événement, comme Pâques, ou une naissance, ou un mariage, ou un décès, le quotidien possède en fait comme événement essentiel, paradoxalement, la vie, qui est source de toute nouveauté, et la routine de la répétition. En effet, c'est bien là que la vertu de l'espérance prend sa coloration la plus utile de persévérance. Pour réfléchir à ce sujet de l'espérance au quotidien, j'ai réfléchi à quelle sorte de quotidien. Bien évidemment, la vie de tous les jours n'est pas la même du riche ou du pauvre, de l'époque de l'histoire ou le lieu de la terre, quelle communauté humaine on appartient, et de la bonne ou la mauvaise santé. Et aussi, j'ai osé réfléchir rapidement au quotidien des saints anges qui, eux, n'ont pas de problème dans le paradis et qui interviennent sur terre tous les jours par leur protection et inspiration. Il en ressort ceci. L'intervention des saints anges au quotidien reste un grand mystère, à part des histoires exceptionnelles connues. Nous croyons qu'ils communient à nos liturgies, ils apparaissent dans les grandes révélations des Écritures, et comme le curé qui voyait et qui parlait avec son ange gardien, et Padre Pio aussi, et des histoires de protection d'accidents et des phénomènes miraculeux. Eux, en tout cas les anges, ils n'ont pas besoin de l'espérance et attendre de voir Dieu, puisque l'Écriture nous dit qu'ils voient sans cesse la face de Dieu. Mais n'ont-ils pas une forme de joie de l'attente, de l'imprévu et du nouveau dans le royaume de Dieu ? Le cœur disponible à la nouveauté, c'est bien le terreau où pousse l'espérance. Et pourtant, la vie quotidienne est plus une sorte de routine. L'exemple d'une journée monastique qui se répète à la minute près est bien paradoxal avec la nouveauté. Il semble que c'est aussi dans une souffrance de la répétition qui purifie les désirs, que naît l'espérance. Les saints anges n'ont pas espéré la fin des souffrances. Donc, leur joie est bien plus fondée sur l'émerveillement du présent. Et ce que l'on sait très bien, c'est que leur projet ou mission, c'est de nous tourner vers l'espérance de contempler la beauté du Seigneur ressuscité. Ceci est extrêmement explicite dans la troupe des anges qui sont apparus aux bergers le soir de Noël. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est la première annonce. Et puis la troupe apparut et se mit à chanter Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Eh bien, j'ai vu dans ce commencement de Noël, bien évidemment, une nouvelle espérance du salut pour Israël et le monde, et aussi de grands espoirs pour la vie sur terre, pour la rencontre extraordinaire qui va faire l'histoire du quotidien des peuples à partir de l'annonce de Noël. Alors, en réalité, à Noël, c'est encore flou la compréhension de la mission du Seigneur Jésus, et également flou la rencontre des peuples, car il est évident que l'incompréhension, la tragédie et la peur viennent entacher la vie quotidienne des peuples, ennemis et étrangers. Et comme dure réalité, c'est le massacre des saints innocents. Je ne voudrais pas sombrer immédiatement dans le pessimisme des affaires de la terre et revenir à l'espérance de Noël, nouvelle, que Noël a apportée. Et finalement, c'est dans le ciel, par les anges, que retentit la parole d'espérance la plus forte de cette nuit. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Parole qui a pris chair dans la Vierge Marie, Jésus. C'est au recouvrement de Jésus au temple, après l'avoir retrouvé tout donné aux affaires de son Père, ils ne comprirent pas, nous dit l'Évangile. Ils ne comprirent pas sa relation avec son Père. Et ils s'en retournèrent à Nazareth pour reprendre une longue vie quotidienne. Avec l'espoir de le comprendre un jour. Ce fut pour eux le commencement d'une nouvelle vie au quotidien. Espérer contre toute espérance. Car cette incompréhension ne les empêche pas d'être pleinement confiants et d'espérer. Il se trouve un homme qui a eu une vocation exceptionnelle de la vie quotidienne, c'est saint Paul. Parce qu'il me semble, il incarne bien celui qui réunit l'espérance de rencontrer Dieu et l'espoir de se faire des amis et des frères et sœurs de tous les peuples, pour créer une seule assemblée de louanges. Bienheureux saint Paul, pour une vie aussi riche de rencontres, bien évidemment aussi foisonnante d'oppositions et de coups. Néanmoins, saint Paul, nommé l'apôtre des gentils, a une parole d'une espérance de revêtir l'homme nouveau, et également un espoir immense. Je n'ai pas d'ennemis parmi les hommes, en Éphésiens 6, 12, mais nous sommes affrontés aux puissances des ténèbres. Cette parole de saint Paul reste une des pensées les plus audacieuses de l'humanité et change la vie complètement si on la met en pratique. C'est ici une des plus belles définitions de ce que c'est que le quotidien. C'est le temps de la croissance dans l'amitié. Et je pense que toujours renouveler sa foi en l'amitié de Dieu, dans la prière et la pratique de la charité, est la joie fondamentale que l'on trouve à espérer. C'est ce qui fait partie du projet de Noël, acclamé par les anges, et ce, je crois, ce que l'on peut mettre au cœur de notre prière quotidienne. Pas d'ennemis parmi les hommes. C'est, je crois, le seul avenir possible sur Terre, puisque les distances sont abolies, il n'y a qu'une seule Terre, des peuples de plus en plus proches, et l'espoir de s'enfuir est en train de disparaître comme neige au soleil, car il n'y a plus de distance de séparation forte comme il y en a eu dans le passé. Le monde aujourd'hui vit une proximité quotidienne qui ne peut le conduire qu'à un seul chemin, une seule espérance. Même s'il y a différents espoirs. Et même si nous n'atteignons pas la même espérance, il semble que cela soit une destruction assurée. Cette destruction par l'homme, l'anthropocentrisme, est annoncée déjà dans le livre de Job et fait partie définitivement de notre quotidien qui participe au désespoir. Et l'on voit que l'échec du désespoir dans la vie quotidienne est terrassé par la grâce reçue de l'espérance. Il y a comme un basculement que nous pouvons connaître dans notre prière quotidienne. Quitter le monde et rentrer dans le secret du Père. Cette souffrance de l'anthropocentrisme fait partie de notre fond commun mondial. C'est comme la fédération à une même destinée par la souffrance. N'est-ce pas Saint Paul, l'apôtre des gentils, qui annonce pour tous les peuples « Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi ». Mais une vie nouvelle est possible au quotidien depuis Noël et bien sûr Pâques. La fin des oppositions culturelles par l'intelligence de l'espérance. Car évidemment, l'espérance est issue d'une intelligence supérieure. On la reçoit en enfant qui écoute et elle appelle tous les jours à être intelligent. Pour s'unir, ne faire qu'un par le Saint-Esprit dans l'Eucharistie. Marie et Joseph ne comprennent pas la relation de Jésus avec son Père. Mais ils savent que tous les jours, ils doivent aider à Nazareth, Jésus, à grandir. L'Écriture nous dit « en taille et en sagesse ». C'est le quotidien de millions de parents qui est plus ou moins difficile. L'espérance chrétienne vient réconforter aussi la vie pénible des parents dans un monde qui propose des artifices et de l'imagination virtuelle en pleine expansion. Alors, comme Marie et Joseph, on peut ramener une petite graine d'espérance de la Pâque depuis Jérusalem jusqu'à Nazareth, parce que la situation a été plutôt guerrière entre l'occupation romaine et la résistance juive. Le Seigneur a amené à Noël la clarification de ce que c'est que l'espoir des hommes et ce que c'est que l'espérance que les anges encouragent par leur gloire à Dieu. Alors là, je commente un peu ça, je dis qu'on fait beaucoup de confusion, je trouve, entre l'espoir et l'espérance. C'est très difficile des fois à discerner l'un de l'autre. Si ce n'est que là, le message des gens, c'est bien, bien explicite. On s'en va vers quelque chose qui nous dépasse complètement, la gloire de Dieu. Et que c'est l'appel et la réalisation du Christ. Voilà une des plus grandes ambiguïtés de la rencontre des personnes et des peuples. Tout le jour, on ne sait pas vraiment quels sont les espoirs communs. L'accessibilité à une vie digne pour tous, ou le partage des richesses. C'est dommage que l'émerveillement de l'enfance laisse place à la productivité mégalomane. Est-ce que les saintes femmes au tombeau vide avaient encore un espoir? Pourquoi Simon de Cyrène, justement, a été empêché de finir sa semaine quotidienne pour aller porter la croix? Quel espoir dans tous ces échecs? la prise de conscience que notre unité dépend de notre prière quotidienne, mais en parallèle, l'espérance et la persévérance. Laquelle soutient l'autre? Il semble que l'espérance devance la vision quotidienne. Quand on ouvre les yeux le matin, la joie de voir est déjà présente par la providentielle lumière qui va nous atteindre par la grâce. Saint Jean aussi au tombeau a eu l'espérance de la résurrection en voyant le linceul vide. Je voulais dire que Saint Jean, il a commencé par l'espérance puisque il n'a pas vu le Christ ressuscité, il a juste vu le linceul vide. Ça a dû faire naître en lui l'espérance de la résurrection et la foi, les deux. Ce qui signifie que notre vie, et aussi les saintes femmes d'ailleurs, qui sont annoncées par les anges, que le Christ était ressuscité. Donc en fait, elles ont aussi une graine d'espérance qui est née à ce moment-là. Ce qui signifie que notre vie doit être fondamentalement ancrée dans l'espérance avant la vision, même de la nature accessible et même du cosmos inaccessible. Des fois, quand je regarde le ciel étoilé, quand il fait beau, le matin de bonne heure, toujours je pose la question, mais pourquoi c'est si beau? C'est difficile à trouver la réponse. Et j'ai trouvé que c'était parce que c'était inaccessible. C'est beau parce que là, on ne peut pas mettre la main. On ne peut pas mettre la main dessus. On a juste à contempler. Et c'est l'image de l'infini. Et c'est ça qui met de la joie, en fait. Que cette beauté, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la prendre. On a juste à l'accepter, à l'accueillir. Il y a une métaphore quotidienne, semble-t-il, où le Seigneur vient apporter la solution d'un échec que nous connaissons en direct tous les jours, celui de la mort du soleil qui se couche. La mort du soleil nous fait entrer dans un mystère qui nous oblige en quelque sorte à rentrer dans une espérance, l'espoir. Bien sûr, on sait qu'il va se relever. Mais en fait, il ne va pas se relever toujours parce qu'il va s'arrêter, le soleil, dans le temps, scientifiquement, mais on le sait aussi qu'il va s'arrêter dans la révélation des Écritures, ce soleil, le nôtre. La nuit nous porte vers une espérance. Il semble que l'invisible, le monde invisible, est avant tout fait pour que l'on grandisse cette vertu d'espérance. Et pour finir, j'ai trouvé que l'on a une compagne très humble qui est chaque jour à alimenter le foyer de l'espérance. C'est la fidélité à aimer la beauté des proches, la beauté de la création, laquelle beauté est celle du Seigneur. Et lui-même a dit « Qui me voit, voit le Père ». Et il y a une espérance que nous pratiquons tous les jours. Chaque jour, on se dit au revoir, parce qu'on aimerait se revoir. Voilà, j'ai fini mon texte. Dans les profondeurs de notre être poétique ou métaphysique, elle fait naître l'espérance par le désir de la revoir, de la saisir, mais aussi parce que je pense que on ne sait pas la comprendre, on est bien obligé de rentrer dans la prière pour que le désir soit purifié, pour qu'on puisse l'accueillir dans le mystère de l'invisible. Et quand on regarde l'histoire des peintres, Beaucoup de peintres, à la fin de leur vie, ils étaient très touchés par l'invisible de la beauté. Et que finalement, c'est le chemin, au bout d'un moment, quand on a travaillé la beauté, au bout d'un moment, c'est l'invisible qui devient intéressant. À essayer de représenter par le visible. Alors le monde sur la recherche, sur cette beauté qui renouvelle chaque jour et qu'on espère revoir chaque jour ou se revoir, le monde bascule dans le désespoir souvent, parce que justement il peut pas accéder à la joie métaphysique, à la joie, c'est la révélation, donc il va faire tout le reste comme travail. Et que si on regarde l'histoire poétique ou l'histoire de la beauté, lentement, ceux qui sont éloignés de la foi nous mettent devant un mur infranchissable. Et c'est vraiment par le retour à la foi, à l'espérance, et bien qu'on garde l'espoir déjà de cette beauté et plus la grâce de l'espérance de la beauté de Dieu. Donc c'est le chemin, en fait, je crois, qui est dans notre quotidien, de plus en plus. Moi, je rencontre beaucoup d'artistes qui me disent qu'ils font du sacré, ou qu'ils veulent faire du sacré. Ouais, j'ai rencontré des céramistes qui sont venus faire une icône, et il y en a une, elle m'a dit, mon atelier, il est sacré, l'autre aussi. Et j'ai dit, si vous voulez, on va faire des icônes sacrées, alors des icônes en céramique. Donc là, on a fait un stage, elles étaient émerveillées. Maintenant, elles veulent renouveler ça constamment. Ce désir du lien avec l'invisible qui était confondu avec une beauté plastique, en fait. Voilà, en fait, le chemin de l'éducation qu'on va avoir, nous, c'est de faire passer ce désir dans la foi et dans l'espérance. C'est ce qui permettra de traverser les crises poétiques, une crise de recherche de forme, pour relancer vraiment l'espoir dans le monde des arts en général, et puis dans beaucoup de domaines.
Peut-être qu'en ayant touché un peu ces réalités-là, ben c'est tellement fort que ça appelle à retordre vers et à retrouver cet état de...
Alors, c'est l'expérience.
...plénitude qu'ils ont pu goûter à un certain moment.
Alors là, le stage qu'on a fait, elle ne voulait pas le faire, ce stage. Je lui ai dit, mais si, faites une icône, vous allez voir, ça va vous plaire. Non, non, non. Et là, on a fait le stage, elles étaient émerveillées, parce qu'elles sentaient qu'elles touchaient autre chose. On a fait la Vierge Marie, Marie-Madeleine. Et ça, c'est un chemin qui est à l'avenir, là. C'est un chemin qu'il faut ouvrir, de ramener les gens vers la foi, l'espérance. Alors après, bien sûr, elles ne sont pas tout à fait chrétiennes, mais pourquoi elles aiment beaucoup Marie.
Marie porte du ciel.
Voilà, l'autre. Après le reste, c'est le...
Comment tu interprètes cette parole, c'est la beauté qui sauvera le monde?
Eh bien, je pense que c'est par rapport au transcendant, là. Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de la beauté dans l'art, l'art est toujours sur un mur. Que ce soit en poésie, en musique. En musique, on ne sait plus où on va. Et c'est que le transcendant qui peut nous sortir de ça maintenant, de cette histoire. Parce qu'enfin, l'intelligence de la beauté a pris beaucoup de croissance. La semaine dernière, on a visité les grottes de Nio, les grottes préhistoriques. Et là, j'ai bien vu que ces gens-là étaient inspirés par la sagesse de Dieu. Ça, j'en suis sûr, que la sagesse était derrière eux, il y a 16 000 ans, et ils guidaient un peu leurs mains, c'était les préambules. Parce qu'il y a une icône qui représente Saint-Luc, qui peint Marie, avec la sagesse dans son dos, qui lui montre du doigt comment il doit faire. Et cette icône, elle est extrêmement importante, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Cette icône, elle signifie que c'est la sagesse de Dieu qui montre le chemin à tous ceux qui cherchent. La sagesse aime ceux qui la cherchent. Et que la dernière étape, c'est celle de Saint-Luc. Et le maximum, la grande révélation est la dernière, les deux. C'est Marie, reine du ciel, avec Jésus, mère de, Marie, mère de Dieu. C'est la dernière étape de l'art, et c'est la première aussi du royaume. C'est la dernière étape de l'art, mon terrestre, et c'est la première étape de l'art du royaume. Et que cette icône est très importante, parce qu'elle révèle que c'est le monde d'avenir qui compte. Qu'on a exploité le monde présent dans sa beauté, et que cette beauté, en fait, ne nous a pas comblés. Et que maintenant, on a besoin de rencontrer la sagesse de Dieu, de la voir, en fait, de la voir, parce qu'elle est là, mais on ne la voit pas. On la voit dans ses hommes, mais on ne la voit pas, elle. Il y a une tension vers une beauté transcendante, voilà.
Est-ce qu'on peut la voir sur cette terre ?
Eh bien, les apôtres, ils l'ont vu. Hein.
Oui.
Ils l'ont vu pas trop longtemps, ils l'ont vu. Ils l'ont vu et ils ne sont pas demeurés.
Je pense aussi aux musiciens, puisque tu as parlé de la musique. Ils sont frappés par plusieurs choses. La première, c'est que l'exemple de Beethoven. Beethoven était sourd. Il avait la musique à l'intérieur.
Oui, oui.
C'est quand même assez extraordinaire.
Oui.
Tu es visité par une musique intérieure, quoi.
Oui.
Et puis un autre exemple aussi célèbre, c'est celui de Mozart. Et Mozart, il a cherché à faire des belles choses, tout ça. Et tout à fait à la fin de sa vie, il y a quelqu'un de mystérieux qui est venu lui dire de composer un requiem.
Oui, 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 oui.
Et ce requiem absolument magnifique.
Oui, oui, oui.
On a l'impression que il est entré dedans, quoi.
Oui.
Alors que il était franc-maçon, il
mais ça, était c'est ça, ça, mais c'est ce que rêvent les artistes, ça, maintenant.
Pardon ?
Ça, les artistes, ils rêvent de ça.
Oui.
Ils rêvent de passer au transcendant.
C'est ça, oui, oui, oui.
Alors, c'est mondial, je crois, ce désir.
Et c'est pour ça que les musiques qui, elles, vont en contresens, c'est terrible. Ça fait un mal fou.
Je pense pas que ce soit les musiques qui font mal coup, mais c'est la disposition d'esprit.
Oui. Parce oui, que mais si tu vois très bien que la réalisation
oui.
de cette musique-là ne peut pas te porter à la joie.
Je sais pas, parce que je trouve que la sagesse de Dieu, par exemple, c'est elle qui a créé des choses que pour nous c'est chaotique. Par exemple, des ronces. Des ronces ou des structures extrêmement chaotiques pour nous. Pour elle, c'est pas chaotique. Elle a quelque chose à dire dedans. Il y a beaucoup de musiques qui sont rentrées dans ce monde-là, de la sagesse. Après, bon, je ne mets pas tout dedans. Mais il y a des musiques qui sont rentrées dans ce monde très difficile à comprendre, c'est très chaotique.
Mmh.
Et pour moi, ils sont inspirés de la sagesse. Qui a montré ça dans le cosmos ? Elle l'a montré. Pour elle, ce n'est pas chaotique, mais pour nous, oui. C'est... Moi, ça m'évoque des fois, justement, une brume incompréhensible. Oui. Alors après, il faut le replacer. Pour la peinture, c'est pareil. La peinture, ça peut être extrêmement défini ou extrêmement rustique. Et la nature, elle est comme ça aussi. Sauf que dans la nature, il y a tous les plans de l'exécution. C'est-à-dire, dans la nature, on ne peut pas la comprendre, la nature, parce qu'elle est sur tous les plans. C'est-à-dire que dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, elle est parfaite.
Oui, oui.
Et on ne peut pas rentrer, nous, ni dans l'un ni dans l'autre. Et c'est inaccessible.
Alors, dans cet ordre d'idée, qu'est-ce que tu peux dire de la musique, de la peinture abstraite ?
Alors, la peinture abstraite est belle parce qu'elle existe, premièrement. Du moins qu'elle existe, elle est belle, puisque c'est des couleurs, c'est beau, c'est des formes, c'est beau. Le problème, justement, de la révélation du Christ, c'est qu'il est venu dire qu'il avait créé et que tout est créé avec une intelligence du Père. C'est-à-dire, il faut aller chercher très loin l'intelligence. Et dans l'art abstrait, c'est une intelligence, on va dire, un peu plus superficielle pour moi.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire, quand tu vas dans la nature te parle... de formes et de choses qui sont carrément intelligentes, que tu ne peux pas accéder tellement c'est intelligent, poétique. Alors que dans l'art abstrait, il t'en parle, mais à un niveau moins haut.
Oui.
Oui. T'en parles aussi, mais à un niveau moins haut.
Oui, alors si on fait rigoler, j'ai connu quelqu'un, ça m'a été relaté, c'était mon prof de philo de l'année de philosophie, et il disait qu'il avait un ami qui était peintre. Et alors, il arrive à Paris pour une exposition, je lui ai raconté, et à Paris pour l'exposition, et le gars ensuite lui demande « Est-ce que vous êtes figuratif ou non figuratif ?» Lui, il répond « Je suis en voiture, c'est avec ça que je suis venu et je repars. »
Je comprends, d'accord.